Alors, je vous propose d'abord faire la connaissance de Kevin. Alors, Kevin, c'est un personnage d'une BD qui date de 2002.
Je m'appelle Jésus. Tu sais, Kevin, je te connais très bien. Je t'aime beaucoup.
Alors, comment va réagir Kevin à l'appel de Jésus? On le saura un petit peu plus tard. En attendant, j'ai choisi deux textes bibliques qui sont tirés de l'Évangile selon Matthieu, qui est la base des discussions des groupes de maison cette année. Le premier texte est inséré dans deux allusions à Jean-Baptiste. Jésus va se déplacer, va changer de région, et ce qui provoque son déplacement, c'est l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Ça me conduit à deux petites remarques avant de lire notre texte. Le ministère de Jésus, mais aussi tout ce qui concerne le salut, est inscrit dans l'histoire et se construit avec des petits ou des grands événements. Ici, Jésus va aller en Galilée parce que Jean a été emprisonné. Le salut offert par Dieu n'est pas une sagesse intemporelle ou désincarnée. Les événements ont un sens et des conséquences. Les actes que nous posons ne sont pas anodins neutres. Et moi, je vois et je comprends ça comme une illustration forte du respect que le Dieu souverain a envers nous. Ensuite, pour moi, le fait que Jésus se déplace suite à quelque chose qui est arrivé à Jean-Baptiste, ça montre que tout ce qui concerne Jean-Baptiste, aussi d'autres choses, va toucher Jésus de manière forte. Et je vois là une manifestation de l'amour, mais aussi de l'humanité de notre Sauveur. Pourquoi Jésus est-il ainsi impliqué, concerné? Alors, il y a une première raison. On considère Jean-Baptiste comme le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Et Jésus a un grand respect pour tout ce qui concerne l'Ancienne Alliance. Deuxième raison, Jean-Baptiste est celui qui précède immédiatement Jésus. Il lui a préparé le chemin, il a inauguré son ministère. Et même si leurs missions sont différentes, leur but est le même. Ils travaillent tous deux à l'avènement du royaume de Dieu. Et avoir un même but, ça unit de façon très forte. Enfin, ils ont des liens familiaux, leur mère, son cousine. Quoi de plus normal que Jésus ait eu des sentiments très forts envers Jean-Baptiste? Quand il apprendra sa mort, Jésus aura le besoin de prier seul pendant toute une nuit. Cela montre que notre Seigneur et notre Sauveur a vraiment revêtu notre nature humaine. À la fin du premier texte, nous trouverons une deuxième allusion à Jean-Baptiste, un peu cachée. Jésus y commence sa prédication avec exactement le même message. Alors selon les traductions en français, c'est « changez, vous repentez-vous, vous convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jésus ne se contente pas de valider la prédication de Jean-Baptiste, il en fait le point de départ de son ministère à lui. C'est maintenant le temps de lire le premier texte. Alors il ne va pas rester affiché pendant tous les commentaires. Donc si vous voulez le garder sous les yeux, si vous avez une Bible, c'est dans Matthieu au chapitre 4, les versets 12 à 17. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Donc au début de ce texte, on voit que Jésus se déplace, il va en Galilée, et pour plusieurs raisons. La première, on l'a déjà dit, parce que Jean-Baptiste vient d'être emprisonné. Il était peut-être plus prudent à ce moment-là pour Jésus de ne pas rester dans la Judée, pour ne pas lui aussi avoir des ennuis, parce que ce n'était pas encore pour lui le moment d'être arrêté et de donner sa vie. Et puis, il y a deux raisons que donne Matthieu. Pour que s'accomplisse une prophétie d'Ésaïe. Tout au long de son évangile, Matthieu a le souci et le soin de montrer que ce Jésus dont il rapporte les faits et gestes est bien le Messie attendu et annoncé par Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et enfin, pour que ceux qui se trouvent dans les ténèbres reçoivent la lumière. Et nous allons maintenant nous intéresser de plus près à ces gens-là. Alors cette carte a été faite d'après des textes qu'on trouve dans le livre de Josué, lors du partage du pays, où différentes régions du pays, des territoires du pays ont été attribués aux différentes tribus. Alors dans notre texte, il est question des tribus de Zabulon et de Nephtali, donc vert pomme vers le haut, et puis violet clair aussi vers le haut. Donc en fait, c'était des régions du nord. Les tribus qui étaient juste à côté, Manassé et Aser, n'ont pas souvent été sous domination du peuple d'Israël, souvent c'était des nations étrangères. Mais voilà, donc Nephtali et Zabulon, c'est le nord du pays. Et dans l'histoire rapportée dans l'Ancien Testament, en raison donc de la rupture de l'alliance du peuple d'Israël avec son Dieu, rupture répétée, en raison des révoltes et des incrédulités, Dieu a suscité des invasions ennemies. Et lors de ces invasions, notamment l'invasion assyrienne, le nord a été la première région du pays dont les habitants ont été déportés. On voit ça dans 2 Rois, chapitre 15. Ensuite, la politique assyrienne était de repeupler les territoires vidés de leur population par des gens venus d'ailleurs. Plus tard, les Perses ont permis le retour d'exil pour ceux qui le souhaitaient, les Juifs comme les autres peuples. Dans le nord du pays d'Israël, les Juifs ont été minoritaires. Cette région a été le plus profondément marquée par des influences païennes. Et par la suite, on l'a appelée la Galilée. Du temps du Nouveau Testament, les habitants étaient méprisés, vus de haut, par les Juifs habitant la Judée, qui se considéraient comme plus purs parce qu'ils avaient moins de contact avec des populations non-juives. On voit ça, on voit une illustration de cela dans Jean chapitre 1. Donc Philippe, c'est un tout nouveau disciple de Jésus, il est plein d'enthousiasme et il veut faire connaître Jésus à Nathanaël. Et Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Donc il y a des ténèbres sur cette région. Et ces ténèbres sont bien des ténèbres spirituelles. La Galilée était à cette époque une zone densément peuplée, prospère, traversée par plusieurs routes de l'Empire romain. J'ai lu qu'elle exportait de l'huile d'olive, des céréales, des poissons de son lac. Donc les ténèbres n'étaient pas un mode de vie pauvre, économiquement ou socialement. Les habitants de Galilée étaient dans des ténèbres spirituelles, et probablement parce que trop influencés par ceux qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils avaient besoin d'être éclairés. Il y a aussi un autre aspect de ces ténèbres. Les Galiléens étaient héritiers d'une mauvaise histoire, d'une mauvaise ascendance. Et je vous propose qu'on s'arrête quelques instants à cette question d'une mauvaise image des autres ou de soi-même. Héritiers d'une mauvaise ascendance, confrontés à de mauvaises influences, les Galiléens pouvaient avoir une mauvaise image d'eux-mêmes. En tout cas, les Judéens avaient une mauvaise image d'eux, et on sait combien le regard que les autres portent sur nous nous construit ou nous détruit. Aujourd'hui aussi, on peut avoir une mauvaise image de soi. Pas tout le monde, mais ça existe. On peut se dire, oh, moi je compte pour pas grand chose. Dieu ne peut pas vraiment s'intéresser à moi. Ou alors on se compare à d'autres et on se dévalorise. Moi j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis pas comme lui, je suis pas comme elle. Avoir une mauvaise image de soi, c'est triste et c'est destructeur. C'est une forme de ténèbres. Alors est-ce que la solution, c'est de cultiver ou d'affirmer une bonne image de soi? Alors moi, je reste très très prudente par rapport à cette solution. Alors le but ce matin, c'est pas de creuser cette question à fond, hein, mais je vais juste donner quelques idées. Alors, la première idée, c'est que d'autres n'ont pas le droit de rabaisser notre image. Parce que tous, nous sommes, tous et toutes, créés à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, elle a été abîmée, mais elle n'a pas été détruite par le péché. Donc personne ne peut me dévaloriser qui je suis. Réciproquement, nous n'avons le droit de rabaisser personne. On peut être amené à évaluer des comportements ou des actes, mais rabaisser quelqu'un pour ce qu'il est, non. Parce qu'il est créé, elle est créée à l'image de Dieu. Mais par rapport à se construire soi une bonne image de Dieu, une bonne image de soi, pourquoi je suis prudente? Alors il y a deux choses qui me font dire ça dans l'évangile de Matthieu. La première, c'est que Jésus reprendra très sévèrement ceux qui avaient une bonne image d'eux-mêmes. Dans le sens où ils pensaient qu'ils valaient mieux que les autres et qu'ils avaient, eux, des atouts qui les rendaient acceptables, entre guillemets, aux yeux de Dieu. Il y a quasi tout un chapitre, le chapitre 23, qui contient une liste de malheurs que Jésus déclame sur ces personnes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, pour toutes sortes de raisons. Or, les scribes et les pharisiens avaient une très bonne image d'eux-mêmes. La deuxième raison pourquoi je suis prudente, elle est dans notre texte. On peut remarquer que Matthieu ne discute pas la constatation d'Ésaïe sur la mauvaise situation des habitants de Galilée. Il ne la remet pas en cause. Il ne dit pas « En fait, non, ils ne sont pas vraiment dans les ténèbres. » Ce qu'il dit, c'est « La lumière est venue pour eux, eux qui sont dans les ténèbres. » Alors, s'il faut éviter de se valoriser, quelle est la solution quand on a une mauvaise image de soi? La solution, elle ne vient pas de nous. La solution, c'est Dieu qui l'apporte. La solution, c'est Dieu qui vient nous visiter dans nos ténèbres. La solution, c'est de savoir qu'il s'intéresse à nous. Qu'il nous aime tellement qu'il a quitté la gloire de son ciel pour venir vers nous dans notre vie de ténèbres. C'était aussi bien dans le texte que Jean-Marc a lu avant la scène. Nous avons de la valeur à ses yeux. Chaque personne dans cette salle, chaque personne dans la salle du haut, chaque personne à l'école du dimanche ou ailleurs, bien sûr, a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur à ses yeux, tu comptes pour lui. Il vient vers toi. Il te visite au sein des ténèbres qui t'emprisonnent. Si on réfléchit un peu aux ténèbres et à la lumière, de quoi est-ce qu'il s'agit un petit peu si on réfléchit un peu, parce que c'est des concepts qu'on utilise souvent, qu'on mentionne souvent, mais si on réfléchit un petit peu à ce que ça représente. Par définition, les ténèbres empêchent de voir. Elles nous laissent dans l'ignorance de ce qui nous entoure, on ne sait pas ce qui existe autour de nous. Sur un plan spirituel ou intellectuel, on pourrait dire que nos connaissances sont limitées par rapport à ce que Dieu a prévu, par rapport à ce que Dieu veut que nous sachions. Ensuite, les ténèbres, ça empêche d'avancer. Je ne sais pas si des fois vous vous réveillez la nuit et puis que vous essayez de vous déplacer sans allumer la lumière, on se cogne et puis on peut se faire mal, même si on sait qu'il y a des choses qui sont là. Ou alors, quand on est dans les ténèbres, donc là je quitte l'image, quand on est dans les ténèbres et qu'on ne veut plus avoir mal, et bien en fait on ne bouge plus, on n'avance plus. Ce matin, je vous ai lu le texte dans la traduction Second 21. J'ai choisi cette traduction parce qu'elle traduit « Le peuple assis dans les ténèbres ». Est-ce que tu es assis dans ta vie, ne voulant pas ou ne pouvant pas avancer, coincé dans des mauvaises habitudes ou prisonnier de manière de penser qui pourrait évoluer, coincé parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer, ou prisonnier par peur des obstacles? Tout à l'heure, Morgane nous a parlé de la peur, et Dieu vient nous libérer des peurs. Quand on est dans les ténèbres, on peut ne pas vouloir avancer parce qu'on a peur. Alors, au lieu de rester dans les ténèbres, recevons la lumière. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Recevons Jésus, la lumière. Recevons-le comme guide et modèle dans notre vie. Recevons l'Esprit Saint qui nous transforme. Croyons à l'amour du Père et laissons-nous aimer par lui. Parfois, ça peut prendre du temps de se laisser aimer par le Père. Parfois, c'est un apprentissage. mais engageons-nous dans cette voie. Laissons-nous aimer par le Père. Si les ténèbres nous laissent dans l'ignorance, la lumière permet de découvrir et de voir de nouvelles choses. Des choses qui sont là depuis longtemps, mais qu'on n'avait jamais remarquées. La lumière permet de transformer et de renouveler notre intelligence, comme Paul l'écrit aux Romains. Si les ténèbres empêchent d'avancer et nous font rester assis à attendre je ne sais quoi, la lumière, elle, nous permet d'avancer. Elle nous permet d'avancer sans se faire mal, en évitant les obstacles douloureux. Elle nous permet d'avancer dans nos raisonnements, dans nos pensées, mais aussi dans nos habitudes, dans ce qu'on doit changer, dans notre mode de fonctionnement. La lumière dévoile aussi des choses qu'a priori on aimerait cacher, mais que Dieu veut changer dans nos vies. Il n'y a pas de danger à avancer dans la lumière. On n'est pas seul. On est accompagné par celui qui nous aime plus et mieux que personne. Il nous montre comment éviter les obstacles qui sont au travers de notre route qui pourraient nous blesser. On peut avancer sans peur, en sécurité, en confiance. Avancer dans quelle direction ? La lumière permet de voir le chemin, la direction prise. Elle permet de savoir où on va. Le but, c'est de glorifier notre Dieu, notamment en devenant la personne qu'il veut que nous soyons. Ressembler toujours plus et toujours mieux à Jésus-Christ, voilà le but de notre voyage sur terre. Recevons, accueillons cette lumière. Peut-être pour la première fois de notre vie. Peut-être que nous avons déjà reçu cette lumière, mais que nous avons besoin de la réinviter à nouveau dans notre vie pour être mieux éclairés, pour plus éclairer. Peut-être dans de nouveaux domaines de notre vie qui jusque-là sont restés dans l'ombre. En effet, la vie chrétienne est souvent comparée à une marche avec différentes étapes. Et quand on avance avec Dieu, on découvre des aspects de notre vie qui jusque-là étaient dans l'ombre et que notre Dieu veut maintenant éclairer de sa lumière. Que ce soit pour la première fois, que ce soit pour la millième fois, laissons-nous guider par la lumière. Laissons-nous guider par Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Sauveur et par l'Esprit qui nous transforme pour recevoir la vraie vie, pour découvrir et apprendre ce qui est prévu pour nous et pour avancer dans notre vie quotidienne. Les habitants de la Galilée ont été au bénéfice de la lumière. De manière intense, spéciale. Jésus a agi, parlé, fait des miracles au milieu d'eux pendant plusieurs années. Les foules venaient le voir et l'écouter. Qu'ont-ils fait de cette lumière ? On va passer maintenant au deuxième texte. Il se trouve dans Matthieu au chapitre 11, les versets 20 à 24. Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et couverts de cendres. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. On n'a peut-être pas l'habitude de lire ce genre de texte tous les matins. Chorazin, Bethsaïda et Capernaum sont des villes de Galilée. Elles bordent le lac au nord et au nord-ouest. Elles sont donc bien du pays de l'ombre de la mort sur laquelle une lumière s'allume. Tyr et Sidon sont deux villes païennes au nord, proches de la Galilée. C'était plus court d'aller à Tyr que d'aller jusqu'à Jérusalem quand on venait de Capernaum. Revêtir le sable, se couvrir de cendres, c'était une manifestation habituelle de repentir ou de deuil. Sodome, la dernière ville dont il est question dans ce texte, c'est l'exemple type des villes réprouvées par Dieu. Dans l'Ancien Testament, la destruction de Sodome sert d'avertissement et d'exemple du jugement qui attend tous les ennemis de Dieu. Et donc, que Sodome soit ici déclarée plus juste que Capernaum est une condamnation particulièrement vive et très humiliante de Capernaum. Je vous propose maintenant de retrouver notre ami Kevin.
Salut Kevin. Salut. Je m'appelle Jésus. Tu sais Kevin, je te connais très bien. Je t'aime beaucoup. Viens avec moi Kevin. Je te donnerai mon amour, la vraie liberté, de nouveaux horizons et un sens à ta vie.
J'ai besoin de rien, je vais très bien. D'ailleurs, tu vois, je me suis dessiné un avenir. J'aurai un super travail, de l'argent, une femme, des enfants. Nous aurons un super dialogue. Ah oui, je serai super respectée, je serai respectée. Et là, tu vois, j'ai déjà de la spiritualité à ma manière. J'ai même une petite place pour le bon Dieu. De toute façon, je me dis qu'on ira tous au paradis. Bon, ben voilà, c'est tout.
Alors, Kevin, tu viens ?
Non, très peu pour moi. Je tiens à ma liberté.
Adieu, Kevin.
C'est ça, salut. Kevin souhaite que personne n'intervienne dans sa vie. Il veut rester maître de tout ce qu'il concerne et décider lui de tout, y compris de ce qu'il ne connaît pas, et même si cela l'isole et cause sa tristesse. Est-il un miroir de nous-mêmes ? Est-ce que nous refusons Jésus pour une liberté qui finalement n'en est pas une ? Est-ce que nous disons parfois très poliment « Non merci Seigneur, je n'ai pas besoin de toi ?» Les habitants des villes de Galilée que cite Jésus pensaient aussi qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Ils vivaient leur vie, tranquille ou pas, mais en fait ils ne veulent pas se remettre en question. Mais le mépris de Jésus et de son offre, même de manière très polie, c'est de l'orgueil. Mais pourtant, les foules ont admiré Jésus. Elles ont été époustouflées par ses miracles. Elles ont reconnu qu'il est quelqu'un d'extraordinaire. Oui, mais là, Jésus parle de changement dans leur vie, de repentance. Il ne s'agit plus d'être spectateur de merveilles, il s'agit d'inviter Dieu dans sa vie. Aller plus loin que le simple fait de regarder pour se remettre en question et s'impliquer. Il ne s'agit plus de voir et de commenter des miracles, il s'agit de reconnaître son besoin de Dieu, s'interroger sur sa relation à Dieu et vouloir changer ce qui ne va pas. Il s'agit de se laisser guider par la lumière. Où en sommes-nous avec Jésus ? Est-ce que je suis spectateur ? Peut-être un spectateur admiratif de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire, par exemple dans son église. C'est bien et c'est juste de contempler son œuvre. L'apôtre Paul écrit à des chrétiens pourtant imparfaits qu'ils remercient Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans leur vie. C'est juste de contempler l'œuvre de Dieu, mais ça ne suffit pas. Les habitants de Galilée ont vu Il reconnut les miracles de Jésus. Et pourtant, celui-ci leur dit « Malheur à vous, vous êtes perdus. » En effet, le jugement à venir ne fait aucun doute. C'est une réalité certaine pour Jésus. Tout le monde est concerné. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas aujourd'hui ou parce qu'il est peut-être malaisé d'en parler dans notre société qu'on va y échapper. Les paroles de Jésus montrent aussi autre chose par rapport au jugement. C'est une gradation dans les peines. Sodome sera jugé moins sévèrement que Capernaum, Tyr et Sidon moins sévèrement que Bethsaïda et Chorazin. Ça fait penser à d'autres passages où Jésus parle de récompense pour les justifiés. Alors on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on ne sait pas concrètement de quoi il s'agit, et il n'est surtout pas question de nous perdre dans des projections incertaines et stériles. Mais ça nous donne quand même deux choses. La première, c'est que nos actes comptent. Nos actes seront pris en compte, et pour moi, c'est là une preuve du respect que Dieu a envers nous. La deuxième chose, c'est que Dieu est juste. Ses jugements ne sont pas arbitraires. Et c'est là une raison de lui faire confiance. Le jugement va donc bien venir sur ces villes que le Seigneur est pourtant venu éclairer de sa lumière. Quand Jésus lance ses malheurs, il est probablement triste à l'idée de les voir perdus. Je pense que ces malheurs sont en partie une expression de sa douleur. Et ce qui me fait dire ça, c'est la manière dont quelque temps plus tard, il parlera d'une autre ville, Jérusalem, qui elle aussi l'a rejetée. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Il va même pleurer en pensant à cette ville. Je pense qu'il n'est pas faux de penser qu'ici aussi la tristesse habitait Jésus. Je pense aussi qu'on peut voir ce texte qu'on vient de lire en partie comme un appel. Encore un appel. Après les miracles, après la prédication, avec ses malheurs à vous, ses prédictions menaçantes, Jésus veut secouer ses auditeurs, essayer de les réveiller, les sortir de leur torpeur. Attention, regardez ce qui vous attend. C'est un ultime appel. Ultime parce que Jésus annonce ce qui les attend. Ils peuvent encore toujours changer, c'est encore le temps de la grâce. Mais s'ils ont refusé d'accepter Jésus, après tout ce qu'ils ont vu et entendu, qu'est-ce qui pourrait encore les toucher? Peut-être le fait justement d'être secoué, en réalisant ce qui les attend. Être secoué aussi par le fait d'être jugé pire que les pires des êtres humains de tous les temps, d'après leur connaissance de l'époque. C'est-à-dire pire que les habitants de Sodome. Est-ce que nous avons besoin d'être secoués pour entendre l'appel de Dieu? Est-ce que nous avons besoin qu'on nous crie que nous sommes perdus sans Dieu? Que si nous rejetons Dieu, devant lui, nous ne nous en sortirons pas mieux que les pires des êtres humains? Attention, le jugement va venir. À un moment, il sera trop tard. Les habitants de la Galilée ont vu la lumière, mais ils ont refusé de se laisser guider par elle. Ils ont préféré rester dans les ténèbres. Resterons-nous dans les ténèbres ou choisissons-nous de nous laisser éclairer? Choisissons-nous de rester dans l'obscurité? Ou bien disons-nous au Seigneur, je n'ai pas besoin de toi? Ou bien voulons-nous prendre la décision de nous laisser guider par la lumière de Dieu? Peut-être pour la première fois de notre vie. Peut-être pour la première fois dans tel domaine de notre vie. Peut-être pour la millième fois. C'est aujourd'hui le temps de la grâce. Chaque fois que nous venons à Dieu, nous sommes accueillis avec amour. Ce n'est jamais en perte que nous nous laissons ou que nous nous laisserons guider par la lumière de Dieu. Au contraire, nous avons toujours tout à y gagner. Laissons le Seigneur nous éclairer nos vies. Ne fuyons pas la lumière. Accueillons-la et laissons-nous guider par elle. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. Amen.